Lizzie présente Au nom de tous les miens de Martin Gray. Propos recueillis par Max Gallo. Lu par Éric Herson-Macarel. Les droits d'auteur de Martin Gray assurent le fonctionnement de la Fondation Dina Gray, qu'il a créée en hommage aux siens, et dont le but est la protection de l'homme à travers son cadre de vie. À tous les enfants. Avant que ma tête n'éclate. Je suis vivant. Souvent, ce n'est pas facile. Hier matin, un autre journaliste est venu. Maintenant, je les connais bien. Ils ont l'expression qu'il faut, ils sont tristes, ils continuent de poser leurs questions. Ils jettent leurs yeux partout, rapidement. Ils ouvrent une porte, ils veulent savoir. Le malheur ne les arrête pas, c'est leur métier. Ils me font penser aux hommes de Pinkert, le roi des morts, qui, dans le ghetto, chargeaient sur leur petite charrette les morts que la nuit avait laissés sur les trottoirs. Des enfants vêtus de chiffon, leurs chevilles gonflées et rouges. Des hommes que des passants avaient déshabillés et qu'on avait recouverts de feuilles de papier. Des petites filles auxquelles personne n'avait eu le courage d'arracher une pauvre poupée grise. Les hommes de Pinkert, leurs casquettes rabattues sur les yeux, leurs brassards blancs avec l'étoile de David au bas de leur bras droit, faisaient leur métier. Ils prenaient les corps et les posaient les uns sur les autres, puis ils s'attelaient à la charrette, et d'un coup de rein, ils la tiraient vers le cimetière et la fosse commune. Ils parlaient entre eux. Parfois, quand ils avaient réussi à obtenir un morceau de pain, ce pain au goût de plâtre, ils étaient heureux. Ils sifflaient, ils se lançaient des mots d'une charrette à l'autre, et les bleus, les policiers polonais, qui n'hésitaient pas à tuer des enfants, ne comprenaient pas les hommes de Pinkert. Ils hochaient la tête, méprisants et scandalisés. « Salauds juifs », disaient-ils encore. Et ils laissaient passer sans trop les fouiller ces charrettes grinçantes où des corps maigres, l'un sur l'autre, tendaient leurs bras raides. Le journaliste d'hier matin n'était pas un professionnel. Il essayait, avec son carnet, son magnétophone, de donner le change, mais il était devant moi, immobile, paralysé, osant à peine me regarder, parlant à voix basse, marchant sur la pointe des pieds. Je préfère les hommes de métier. Ils savent ce qu'est le malheur, la mort, la vie. Celui-là, avec ses petites moustaches noires, il ne savait rien. Et il m'a fait mal encore. Il me disait, en silence, il hurlait en face de moi, malgré son sourire crispé, « Mais qu'est-ce que vous faites là, vous, à me recevoir, à parler, à traîner vos bottes dans cette pièce? Qu'est-ce que vous faites là, à vivre? Vous n'avez pas honte ?» Il secouait la tête, regardait les photos des miens, Dina, ma femme, que je montrais encore, il le faut bien, mes enfants que je poussais vers lui, Nicole, Suzanne, Charles, Richard, souriant sur ces photos. Il gardait la photo où ils sont tous les cinq dans le pré devant la maison, Suzanne debout, levant les bras, et Dina serrant contre elle Richard, et il ne disait rien. Il hochait la tête, et j'avais envie de le saisir par le cou, de le jeter dehors, de lui faire mal. Et j'avais envie de faire éclater ma tête en la frappant sur les murs. J'aurais voulu prendre ma tête et la lancer à toute volée comme une grenade sur cette maison que nous avions reconstruite, Dina et moi, pour nos enfants. Ma tête explosant enfin, une bonne fois pour toutes, et me laissant en paix. Mais non. J'étais là, à regarder ce journaliste qui, de temps à autre, levait les yeux vers moi, puis les rabaissait vite, comme pour dire « Je vous ai vu, vous êtes vivant, eux sont morts, et je n'ose pas affronter leur mort et votre vie. » Je sentais qu'au fond de lui-même, il avait peur. Peur de me laisser voir ce qu'il pensait. Pourquoi n'êtes-vous pas mort aussi comme eux? Vous n'avez pas honte d'être encore vivant? Votre vie est un scandale. Moi, je savais qu'il pensait cela. Parce que depuis des mois, depuis le 3 octobre 1970, je me répète cette phrase à chaque instant. Il suffit que ma tête ne soit pas pleine de bruit pour que le souvenir de ma femme et de mes enfants m'étouffe. Alors, comme hier matin face à ce journaliste, je voudrais jeter ma tête contre un mur. Elle bat si fort, ma tête. Elle me fait si mal. Je me mords les joues, les lèvres, pour ne pas crier. Je voudrais me déchirer, ouvrir ma poitrine avec mes mains. Je voudrais hurler « Je suis vivant !» Hurler. Et j'entends mon cri. Il ressemble à ces cris qu'on entendait dans les caves de la Gestapo, à l'Échoura, à Varsovie. Ces cris d'horreur que j'ai poussés aussi. C'est surtout le soir que je suis ainsi, avec la haine de ma vie, cette vie qui m'est restée. J'ouvre la radio, je tourne le bouton jusqu'à ce que mes oreilles ne puissent plus supporter le vacarme de ces mots qu'on n'entend même plus tant ils sont forts, de cette musique qui n'est plus de la musique. Je me calme. Je suis enveloppé dans ces vagues. Le bruit m'écorche et cette douleur physique m'est douce. Je peux penser à eux, les revoir tels qu'ils étaient. Le 2 octobre, la veille de l'incendie, ils couraient vers moi, lançant leur cartable par-dessus leur tête. Il faisait doux, le ciel était d'une luminosité brillante. Depuis des mois, il n'avait pas plu et le mistral commençait à souffler. J'ai pris une photo ce jour-là. Elle est là, devant moi. Le lendemain, il n'y avait plus rien de ma vie. Ma femme et mes enfants étaient morts. Au-dessus du tanneron, s'effilochait une fumée noire. Je n'avais pas vu de flammes si hautes depuis le temps où brûlait le ghetto de Varsovie. Alors aussi, j'étais resté seul. De ma vie, alors aussi, il n'y avait plus rien, que moi vivant. J'étais sorti du champ de ruines, j'étais sorti des égouts, j'étais sorti de Treblinka, et tous les miens avaient disparu. Mais j'avais 20 ans, une arme au poing. Les forêts de Pologne étaient profondes, et ma haine, comme un ressort, me poussait jour après jour à vivre pour tuer. Puis, pour moi, après la solitude, semblait venu le temps de la paix, ma femme, mes enfants. Et puis, cet incendie, le tanneron en flammes, le crépitement du feu, cette odeur et la chaleur, comme à Varsovie. Et on m'a tout repris. Tout ce qu'on avait semblé me donner, ma femme, mes enfants, ma vie. Une deuxième fois, il ne me reste que moi, vivant. J'ai mis des jours et des nuits pour comprendre simplement que cela était vrai. J'ai voulu en finir avec ce moi vivant qui collait à ma peau. J'ai voulu trouver la fin de ce qui avait recommencé. Des amis m'ont gardé. Des hommes dont le métier est de côtoyer la guerre et de voir mourir, dont les jours se sont passés à mesurer ce qu'il y a d'incompréhensible dans le destin des hommes. Ce soldat arraché à la mort in extremis et qui tombe de la passerelle d'un bateau qui le reconduit heureux aux États-Unis et qui meurt sur le quai. Jour après jour, j'ai prolongé ma vie et je suis vivant.